Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, voici les titres de votre journal. Environ 70% des habitants qui ont fui les exactions de ZADF dans la friferie de Boga, à 120 km au sud de Bounia, en Ituri, ont regagné leur village d'origine. La société civile locale s'en réjouit et demande aux forces conjointes d'intensifier les opérations de traque de ces rebelles pour consolider la paix dans la zone. Le ministère de la Santé publique avec l'ONG Mounazamat organise du 23 au 30 octobre 2022 à Kinshasa une campagne gratuite de soins ophtalmologiques. Le ministère de la Santé appelle ainsi les Kinois à aller s'inscrire à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. L'invité de ce journal est la vice-présidente de la Creative District, un hub des industries culturelles, créatives et des médias en Belgique. Fondatrice d'une organisation de promotion de la culture afro-caribéenne, Christelle Pandanzila s'exprime sur les attentes de la communauté congolaise vivant en Belgique. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Ituri, environ 70% des habitants qui ont fui les exactions des rebelles des ADF dans la chefferie de Boga, à 120 km au sud de Bounia, ont regagné leur village d'origine. C'est à la suite de l'accalmie qui s'observe dans la zone depuis le lancement de la quatrième phase des opérations conjointes FARDC armées ougandaises UPDF pour traquer ces rebelles. La société civile locale s'en réjouit, mais demande aux forces conjointes d'intensifier cette opération pour consolider la paix dans la zone et permettre ainsi le retour d'autres déplacés qui ont fui depuis 2 ans. Le point avec Ezekiel Mouzalia. En attendant qu'on nous revienne, disons qu'en Ituri encore, pour vous dire que les marchés communautaires dans les territoires de Djougou attirent de plus en plus de commerçants de tous les coins de la province. Selon des sources concordantes, c'est à la suite d'accalmie observée depuis 3 mois qui a permis la relance des activités agricoles dans plusieurs localités de cette entité territoriale. Des camions en provenance des territoires d'Irumu et de Mahagi affluent chaque semaine dans ces marchés pour s'approvisionner en vivres. Isaac Remoyo-Péry vient de la zone. Suivez son reportage. Et puis le nouveau représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef de bureau INOCA, plaide pour un dynamisme politique d'intégration régionale qui se conforte dans la région afin que divers problèmes soient réglés. Abdou Abari l'a déclaré hier mardi à l'issue de l'échange qu'il a eu avec le Premier ministre. Échange ayant gravité autour des défis sécuritaires et des atouts dont regorge la RDC sur le plan continental. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jeff Ngoy.
On a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires et de stabilité, mais également les atouts dont dispose cette région et ce grand pays en termes de potentialité naturelle, de ressources naturelles, mais également de richesses humaines, le dynamisme de la jeunesse et donc des atouts qui, s'ils sont utilisés à bon escient, pourront permettre d'imprimer cette politique qu'en tout cas en tant que Nations Unies, nous voulons, celle de voir la dynamique de l'intégration régionale se conforter dans la région et qu'avec cette dynamique d'intégration, que tous les problèmes, qu'il s'agisse des problèmes de gouvernance, des problèmes de paix et de sécurité, des problèmes de changement climatique, qu'ils puissent être réglés pour qu'enfin les populations et les peuples de cette région connaissent la prospérité, le bien-être, le bien-vivre.
Retour à Bounia avec 70% de la population qui a regagné le village de Boga. C'est un reportage de Ezekiel Mouzalia.
La quatrième phase des opérations conjointes FARDC-UPDF semble avoir atteint son objectif, celui de ramener la paix dans le centre de Boga et Tchabi, secoué par l'activisme des rebelles des ADF. Selon plusieurs sources locales, il s'observe depuis 2 mois une forte concentration de la population dans le groupement Ruzinga, Bundundu, Bouarangi, ainsi que vers l'aérodrome de Boga. Ces deux forces y ont installé leurs différentes bases pour assurer la protection des civils et anéantir tous les foyers de l'ennemi éparpillés dans la forêt. Des sources concordantes dans la région indiquent que ces opérations ont permis la relance des activités commerciales, entre autres dans certaines entités, dont Zungulouka et Tchabi. Un habitant témoigne.
Quoi qu'on a
Leur présence ici apporte une sécurité totale dans notre milieu. La population est très contente. Cela permet les retours de la population. Ils peuvent être au-delà de 7000 personnes. D'autres ne sont pas encore retournés à cause de l'insécurité. La présence des forces ougandaises apporte beaucoup d'espoir.
Signalons qu'à ces jours, plus de 14 000 personnes sont encore en déplacement dans d'autres localités, notamment à Bunia, Kiaza et Kangwale, proches de l'Ouganda, selon le dernier rapport de la société civile locale. Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et toujours à Bunia, notre confrère a permis la relance des activités agricoles dans plusieurs localités de cette entité territoriale.
Le territoire de Djougou reprend progressivement son statut de grenier de la province de l'Ituri. Plusieurs marchés, notamment à Pandroma, à Katoto et à Boulé, drainent de plus en plus de personnes chaque semaine. De nombreux habitants venus de plusieurs villages du territoire de Djougou y apportent des vivres tels que les haricots, les maïs, les soja, les pommes de terre, les choux, les arachides et même du café. Des commerçants venus de plusieurs centres commerciaux, dont Bunia, Mungwalu, Igabarrière, affluent dans ces marchés avec des camions pour s'approvisionner en vivres. Selon la cité civile, ces transactions ont permis la relance et l'économie des ménages qui étaient appauvris par la guerre. Son président estime à 40% les taux des activités économiques et agricoles dans cette entité. Désiré Malodra.
Ici, nous voyons la vie maintenant à Bunia, c'est grâce aux vivres qui arrivent de Boulé et les vivres qu'apportent les différentes communautés des territoires de Djougou.
Pour les chefs du marché de Boulé qui accueillent plus de 3000 personnes chaque jour du marché, cette reprise des activités est due à la cohésion sociale entre les différentes communautés depuis la cessation des hostilités par les groupes armés. Il ajoute que ces efforts doivent être consolidés pour accroître la production dans la zone.
Avant, il n'y avait pas cohabitation entre la population. Mais aujourd'hui, les gens commencent à se fréquenter. Il faut que les gens retournent dans leur milieu pour cultiver les champs.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se résout d'accompagner la RDC dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme et la promotion de la démocratie. Et en pris part aux travaux de la dernière session de ce Conseil à Genève, Paul Sapou a organisé une séance de restitution hier mardi à Kinshasa, au cours de laquelle il a dévoilé les différentes recommandations adressées aux institutions congolaises. Selon le président de la Ligue des électeurs, il s'agit d'une résolution équilibrée qui propose à l'État congolais les services de la communauté internationale. Nous resterons vigilants sur son application dans un contexte politique dominé par les préparatifs des élections en RDC, a déclaré le président de la Ligue des électeurs. Paul Sapou est au micro de Jeff Ngoy.
D'abord, on a renouvelé le point 10 dans lequel la RDC est placée. Il s'agit de l'assistance technique et la collaboration entre le Conseil des droits de l'homme à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le gouvernement congolais. Le mandat du Haut Commissariat a été renouvelé sur ce point-là et que les experts vont continuer à suivre la situation des droits de l'homme comme ils l'ont fait, non pas seulement pour le Kasaï, mais ils ont également mandat élargi au niveau du territoire national. Dans la résolution, c'est inséré que le Parlement adopte certaines lois, la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme, l'assistance, l'appui apporté à la justice en général, la justice transitionnelle en particulier.
Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'ONG Mounazamat, organise du 23 au 30 octobre prochain une campagne gratuite de soins ophtalmologiques à Kinshasa. Cette campagne comprend aussi la distribution des lunettes et des opérations chirurgicales de la cataracte. Le ministre de la Santé appelle ainsi les Kinois à aller s'inscrire à l'hôpital général de Kinshasa, Eksema Mayemo. Et on écoute à cet appel du docteur Jean-Jacques Mungani dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Chers compatriotes, sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'ONG Mounazamat, une campagne de chirurgie ophtalmologique sera organisée du 23 au 29 octobre 2022 pour opérer les personnes souffrant de la maladie de la cataracte. Vous êtes donc invité à vous enregistrer à l'hôpital général de référence de la ville province de Kinshasa dès aujourd'hui. Il est important de rappeler que cette campagne est totalement gratuite.
Nord Kivu, elle s'appelle Astrid Kavira, mère de famille, une cinquantaine d'années et infirmière de son état à Goma. Elle se porte bien actuellement grâce à la chimiothérapie notamment, mais elle estime que le cancer du sein risque d'être fatal si la patiente néglige les conseils donnés par son médecin traitant, notamment en ce qui concerne la chirurgie obligatoire après la prise de médicaments. Astrid Kavira revient d'abord sur son combat acharné pour prolonger sa vie. Elle est au micro de Jules Ngala.
Je suis soignée depuis 2018. Si je n'étais pas soignée, je serais déjà morte. Alors, il faut aller chez les médecins à temps et il faut accepter les consignes. La chirurgie, c'est une étape très importante. Il ne faut pas dire, ah, moi je ne vais pas mourir mutilée. Non, la mutilation n'est rien. C'est le souffle de vie que nous cherchons. Laisser, on peut faire même une prothèse. Parce qu'après la chimiothérapie intensive, là, il faut nécessairement passer par la chirurgie. C'est une étape importante. Parce que même après la chimio, cela peut vous tromper. Vous ne trouvez même plus rien dans les seins. Tout devient comme s'il n'y a aucune tumeur vraiment. Il faut penser que vous êtes guéri. Le médecin dit qu'il faut enlever le foyer. Alors il faut accepter qu'on enlève le foyer et qu'on racle vraiment tout ce qui peut être comme cellules cancéreuses là-bas.
L'ONG Service Chrétien d'Animation Rurale du Katanga se félicite des travaux de réhabilitation sur la nationale numéro 1 à Ksenguba-Luboudi dans le territoire de Luboudi en province de Lualaba. Cependant, ce coordonnateur national indique que trois ponts situés sur cette route sont en mauvais état et cela nécessite une réhabilitation avant la tombée des fortes pluies, car en cas d'effondrement, ce territoire risque d'être isolé et le trafic perturbé. On écoute Gilbert Kayumba au micro de Jean Gandou.
Il y a trois ponts qui sont abîmés. C'est le pont Ngeleka, situé à 38 km de Luboudi centre, le pont Kasanza, qui est situé entre Mbebe et Kiabo. Il y a également le pont Lukendi, qui est détruit, mais on a créé un petit pont de fortune pour la déviation. Il faut une intervention urgente pour ne pas handicaper l'économie et le social de toutes ces provinces situées sur la nationale numéro 1. En dehors du pont Lukendi, qu'il faut reconstruire totalement, les autres ponts, c'est les platelages en béton armé qui sont abîmés. Si rien n'est fait, nous serons coupés. Et c'est l'économie de toutes ces provinces, les Haut-Katanga, les Lualaba, les Olomami, les Grands Kassai, qui seront handicapés sur le plan social et même sur le plan sécuritaire. Si le trafic tel que je le vois fréquent avec des grands camions reste tel qu'il est, nous risquons d'être coupés rapidement. Et c'est l'économie de toutes ces provinces qui sont le long de cette nationale numéro 1 qui seront handicapées.
Contacté, l'administrateur du territoire de Luboudi confirme l'information. Clémentine Lutanda indique qu'une délégation du ministère provincial des infrastructures était descendue sur le terrain pour évaluer la situation. Bonne nouvelle au Kasaï oriental avec ce changement des résultats de l'examen d'État édition 2021-2022 pour l'Institut technique Union COP de Mbujimaï. En effet, l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et technique a revu les résultats de la filière électricité de cette école dont les résultats initialement étaient néants. Et pour cause, d'après l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kasaï Oriental, le code attribué à cette école ne correspondait pas à celui que détenaient les élèves. Vérification faite, 43 élèves sur 75 avaient réussi à cette épreuve. Les résultats ont été communiqués hier mardi par Stanislas Kabea Tibaka, coordonnateur des écoles conventionnées catholiques. Il explique ici au micro d'Esterne Alafina.
Il faut vous dire que j'étais dans la joie. Je crois que prochainement, on fera beaucoup plus attention. Évidemment, c'est presque 75% de réussite. C'est 43 élèves sur une septantaine. Nous avons encouragé les autres à reprendre l'ITE de Lyon-Cop. C'est une grande école technique qui a formé au Kasaï. Que le parent ne se décourage pas, qu'il nous fasse confiance. Nous sommes là pour encadrer leurs enfants et bien encadrer d'ailleurs. J'ai à ma possession la liste, même les noms des élèves qui ont réussi. Mais que le parent vienne déjà à la coordination ou bien qu'il passe directement à l'école pour s'enquérir de la vraie situation de la filière électricité à l'UTI de Lignocop. J'ai été superviseur dans ce centre, j'étais saisi du dossier, c'était une erreur technique, c'était glissé pour une école conventionnée. Les enfants avaient reçu le code d'une école non conventionnée. Voilà, tout est parti de cette erreur qui était déjà signalée. Un coup de chapeau à l'équipe dirigeante de notre province éducationnelle. Merci à Madame Lipépé de notre province éducationnelle Kasaï Oriental pour sa bravoure, pour ses démonstrations d'une bonne collaboration. Je parle du Proved et je parle du Prosec à qui j'ai dit merci pour leur implication et de tous les héros à l'ombre qui nous ont aidés.
Débat général hier mardi à l'Assemblée nationale sur la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos 2021. Le gouvernement se félicite du taux de réalisation des recettes évalué à 108% par rapport aux prévisions. En l'absence du ministre des Finances en mission, la vice-ministre qui a présenté ce texte a souligné que le taux de dépenses du budget 2021 était supérieur au taux des recettes, ce qui a poussé le gouvernement à recourir au bon de trésor. Tout le détail avec Michel Kifindangoy.
Au cours du débat, les députés ont déploré le faible taux d'exécution du budget d'investissement. Certains projets d'infrastructure dont les fonds ont été décaissés depuis 2011 n'ont jamais été réalisés, ce qui pousse les députés Singhi Pouloulou à penser à des détournements des fonds. Certains secteurs comme l'enseignement ont bénéficié de beaucoup d'argent, mais sans savoir à quoi cet argent a servi, se demande Solange Masumbuko.
Nous avons remarqué avec intérêt que l'enseignement primaire et secondaire a eu beaucoup de fonds. Évidemment, nous sommes tous d'accord que c'est pour la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, cet argent-là est allé où? Le plus-value, c'est à l'achat des banques. Ça a été affecté aux nouvelles unités.
Déon Koussou a pour sa part déploré une faible ou une absence d'affectation des ressources vers les entités territoriales décentralisées.
L'argent qui est envoyé à la province, quand il arrive, très souvent, les gouverneurs prennent cet argent. Il demande donc à l'OD provincial de transférer cet argent au comptable du gouverneur. Et ça, c'est un détournement.
À l'issue du débat, la vice-ministre des Finances, Oneige Sélé, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux.
Actualité internationale.
La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a tourné au clash diplomatique hier mardi lorsque le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur français se sont affrontés. Après que Bamako a lancé de nombreuses piques en direction de l'ONU au sujet du rapport du secrétaire général pour la période de juin-septembre, Abdoulaye Diop a renouvelé les accusations portées contre Paris.
L'invité
de ce journal est la vice-présidente de la Creative District, un hub des industries culturelles, créatives et des médias en Belgique. Fondatrice d'une organisation de promotion de la culture afro-caribéenne, Christelle Pandanzila s'exprime sur les attentes de la communauté congolaise vivant en Belgique. Elle s'entretient avec Cynthia Bachizi à mission à Bruxelles.
Christelle Pandanzila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes très connue ici à Bruxelles, très connue dans le milieu associatif. Vous êtes aussi entrepreneur. Alors, comment la communauté congolaise est organisée ici à Bruxelles?
Très vaste, parce qu'on fonctionne aussi, en tout cas pour les plus âgés, ils fonctionnent encore beaucoup par peuple. Donc, on va avoir les Baluba qui vont être ensemble, on va avoir les Mswahili qui vont être d'un côté, etc., quand il y a des choses culturelles qui doivent se mettre en place. Donc, c'est vraiment par communauté, par langue, par affiliation. Et ensuite, dans les plus jeunes, il y a beaucoup plus d'unité qui se fait. Surtout ceux qui sont nés ici connaissent encore très mal peut-être leurs origines et les affiliations.
Alors, est-ce que c'est réducteur de dire que les Congolais se retrouvent uniquement en Matongé, ou si on veut parler de la communauté congolaise, on voit directement Matongé?
Mais il y a une lecture déjà historique, parce que effectivement Matongé, bon, le nom relie à ce quartier, cette commune même fameuse de Kinshasa, et aussi le quartier Matongé est l'endroit où il y a toujours d'ailleurs la maison africaine qui a accueilli les premiers étudiants congolais. Comme anecdote, quand ils arrivaient à Zaventem à l'époque, s'ils ne savaient pas où aller, les douaniers eux-mêmes appelaient la maison africaine pour les prévenir qu'un ressortissant donc du Congo était présent sur le sol congolais. Donc oui, ça a eu lieu de retrouvailles, mais aujourd'hui, le quartier Matongé est un quartier qui est vraiment panafricain, et au-delà de ça, c'est un quartier qui s'est gentrifié. Donc on a d'une part énormément donc de Flamands qui se sont installés par des incitants offerts par la communauté flamande. Il y a d'un autre côté aussi la communauté européenne, parce que le quartier tend à se réduire. Et donc petit à petit, il va en rester quasiment plus qu'une rue, et peut-être le nom anecdotique de Matongé, mais quand on s'y promène, Matongé n'a plus la couleur.
Cette connotation.
Oui, congolaise. Il y a des Camerounais, il y a donc des Rwandais, il y a des Sénégalais, il y a de plus en plus d'ailleurs de Sénégalais et de Guinéens. Et les prix sont extrêmement élevés, donc.
Les prix de quoi? Des logements?
les prix des logements, c'est extrêmement élevé. Donc, les Congolais n'habitent pas à Matongé. Et si on regarde en termes de recensement et de population, là où on peut trouver le plus gros contingent de diaspora congolaise, c'est dans la commune de Saint-Josse.
Alors, on découvre que la population ou la communauté congolaise n'a pas telle puissance économique. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Nous, de l'autre côté, au Congo, on a vraiment l'impression que le Congolais peut même représenter une certaine influence économique, mais on se rend compte ici que ce n'est pas le cas. Comment ça se fait?
Voilà, les gens ont travaillé dans des sociétés, sont salariés, etc. Et comme je disais, il faut mettre le pied dans la porte, la laisser ouverte pour que d'autres puissent suivre. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir du poids. Et ça, on n'a pas encore...
Donc vous plaidez pour une certaine solidarité?
Oui, tout à fait. On n'a pas encore cet esprit de solidarité. C'est plutôt de l'individualisme. Je suis là et je veux être la seule. Quand on regarde nos frères maghrébins, on a l'impression de l'extérieur de cette communauté maghrébine qu'ils sont vraiment solidaires entre eux. Ici, la communauté maghrébine, en termes d'entrepreneuriat par exemple, elle a beaucoup de poids, en termes politiques aussi, parce que justement, quand quelqu'un est là, il va faire entrer l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du poids. Et ça, nous, les Congolais, on doit apprendre à faire ça.
Dernière question, quelles sont les grandes difficultés rencontrées par cette communauté, les Congolais de Bruxelles?
Mais si on a toujours la nationalité congolaise, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas le soutien de l'État, même pour des choses simples comme l'obtention des papiers, l'obtention d'un certificat de naissance, l'obtention d'un passeport. On peut attendre des années avant d'avoir son passeport. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment primordial, même si on est dans l'espace Schengen. Si on va en France et qu'on n'est pas, français ou belge, on est d'origine congolaise, on peut se faire arrêter à la frontière si on n'a pas le passeport qui vient avec la carte d'identité. Donc ça, c'est un réel problème parce qu'on ne peut pas se tourner en fait, vers l'État. On ne peut pas se retourner vers l'ambassade. Si vous ne connaissez pas quelqu'un là-bas, vous allez passer des jours et des heures et vous n'aurez toujours pas de réponse. Et on ne peut pas avancer sans être organisé. On en revient vraiment à ça. Ça doit être, c'est de la tête jusqu'en bas qu'on doit être organisé. Et jusqu'à présent, ce n'est toujours pas fait.
Christelle Pandanzila, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invitée, la vice-présidente de la Creative District, un hub des industries culturelles, créatives et des médias en Belgique. Christelle Pandanzila s'entretenait avec Cynthia Bachizi à Mission à Bruxelles. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.